Sud Radio, Regard de femme.
Regard de femme avec Aurore Boyard, avocate à Toulon, bonjour.
Bonjour à tous.
Et Caroline Grima, avocate à Pontoise, bonjour.
Bonjour à toutes et tous.
Alors on va commencer par vos coups de cœur. Vous Aurore, c'est un coup de cœur sur quelqu'un qu'on adore, Michel Audiard.
Oui.
Un livre sur Michel Audiard.
Tout à fait. C'est Fabrice Zéferard qui est professeur des universités à Reims et qui a écrit un livre qui s'appelle Les lois de Michel Audiard. Alors ça fait du bien en ces périodes parce que dans ce livre, il a vu quand même les 135 films dans lesquels Audiard a dialogué. Il les a vus deux fois et aussi ceux sur lesquels il a travaillé en tant que scénariste. Et c'est un pur bonheur parce que d'abord on rit beaucoup, il vulgarise et il a vu ça du côté du droit. Mais en fait, le droit là-dedans n'est qu'un outil pour lui, pour nous rappeler tout ce qu'a dit Audiard. Alors on a la vision d'Audiard sur les avocats, sur les cons bien sûr,
oui,
sur les notaires, sur la police surtout. Et en fait, il en tire trois lois, liberté, fraternité, égalité, qui étaient les principes d'Audiard. Et véritablement, c'est un livre qui fait du bien et qui donne envie de revoir tous ces films, notamment, et de revoir Michel Morgan, Jean Gabin, Nino Ventura. C'est un vrai bonheur, c'est un petit bonbon qui pétille.
Vous avez parlé des cons, vous voulez ma citation préférée d'Audiard, qui n'est pas très connue, parce que c'est dans un film qui n'a pas très bien marché, qui s'appelait Fleur d'oseille, c'est « Quand tu passes pour un con, passe vite ». Je trouve que celle-là est excellente. Alors Audiard, évidemment, on ne peut qu'approuver. Vous, c'est un coup de cœur ou plutôt... C'est Michel Michou.
C'est un coup de
trouille. Et puis ça parle de la CIA, alors comme vous auriez pu être James Bond Girl, ça va très bien.
Oui, Philippe. Alors effectivement, au début de chaque mandature présidentielle américaine, la CIA dépose dans le bureau ovale un rapport qui est une espèce de rapport prospectif qui couvre à peu près 15-20 ans de ce qui est censé advenir dans le monde. Et on s'est aperçu que les rapports qui avaient été rendus précédemment, notamment singulièrement celui de 2009, avaient été tout à fait intéressants parce que c'était des prédictions qui finalement, en tout cas pour une d'entre elles, s'était réalisée. Il s'agissait du risque pandémique.
Ah oui.
Et c'est vrai qu'à l'aune de ce qu'on vient de vivre ces 18 derniers mois, c'est assez étonnant. Donc là, un nouveau rapport a été donc fourni à Joe Biden au début de sa mandature et il est traduit et il est publié en France aux éditions des Équateurs. Et sans grande surprise, ce qu'on constate dans ce rapport, c'est trois problématiques très importantes. La première, c'est évidemment le risque géopolitique induit par les changements et dérèglements climatiques, qui va avoir un impact considérable dans les 20 prochaines années. La dette, pour certains pays, qui est susceptible de provoquer un déséquilibre, là encore, extrêmement important. Et puis également, et ça c'est vraiment pas réjouissant, les attaques terroristes qui, loin de se calmer, vont plutôt avoir tendance à s'accentuer avec des moyens d'attaque de plus en plus sophistiqués, de plus en plus lourds et qui sont susceptibles de commettre de plus en plus de dégâts. Donc on a quand même quelques petits points qui sont positifs, hein, malgré tout, s'il faut terminer quand même sur une note positive. Donc ce sont évidemment tous les progrès scientifiques qui vont continuer à être réalisés, notamment dans le domaine médical et puis dans l'amélioration du quotidien de tous. Donc voilà, ça c'est une note un peu plus positive, mais globalement on note en tout cas sur ces 20 dernières années en lisant ces rapports qu'ils sont de plus en plus pessimistes sur les rapports internationaux.
Ça rappelle le titre d'un film qui n'était pas fait, dont les dialogues n'étaient pas faits par Audiard, mais c'était un film de Bertrand Blier, Préparez vos mouchoirs. C'était un film en 78. Alors mesdames, oui, vraiment, Préparez vos mouchoirs, vous voulez parler d'un dramatique féminicide, d'un dramatique fait divers qui a eu lieu à Mérignac, à côté de Bordeaux, cette semaine.
Oui, alors, dans ce fait divers, en fait, je pense qu'il va être important d'expliquer comment fonctionne un peu la justice lorsqu'il y a des décisions qui ont été rendues, puisque le meurtrier, en fait, était sous sursis probatoire. Alors, il faut quand même rappeler la première chose, c'est que c'est le procureur de la République qui est chargé de l'exécution des peines. Donc, à partir du moment où quelqu'un ne respecte pas son sursis probatoire, qu'est-ce qui doit être fait? Le procureur de la République doit saisir le juge d'application des peines, et en règle générale, la personne, on la trouve, on la met en prison, le temps que le juge d'application des peines puisse voir le dossier. Sauf que j'ai appris récemment, puisque moi j'étais pas du tout une spécialiste de l'application des peines, mais il s'avère que j'ai eu un dossier un peu similaire, mais pas sur un féminicide. Et heureusement, mon client est toujours en vie, donc c'est très bien. Le juge d'application des peines, en fait, n'a pas le dossier du tribunal. Donc il faut arrêter de faire haro sur le juge d'application des peines. Il faut savoir que quand on lui soumet un dossier, en fait, il a rien. Il n'a que la décision de justice. Donc au lieu de faire des lois en permanence, de nous sortir des lois, il suffirait déjà rien que de dire qu'on change nos habitudes. d'habitude, et que lorsqu'un juge d'application des peines est saisi de la situation de quelqu'un, la première chose qu'il devrait avoir, c'est l'intégralité du dossier qui avait été soumis au tribunal, parce qu'en règle générale, notamment dans ce genre d'affaires de féminicide, il y a des rapports psychologiques, il y a quand même beaucoup de choses qui vont lui permettre que lui, juge d'application des peines, va pouvoir se faire une idée. Bon. Après, je vais laisser Caroline rebondir sur ça, parce qu'en fait, il y a pas mal de sujets à aborder, notamment sur le JAP, et puis sur les conséquences aussi, sur les manques de moyens, parce qu'il y a une enquête qui est dirigée, qui, moi, ne sert pas à grand-chose. Dès qu'il y a un problème en France, on diligente une enquête. Sauf qu'il y a d'autres moyens, et on sait qu'aujourd'hui, on a tous les moyens pour éviter ce genre de problème.
Caroline Grima.
Alors moi, je voudrais me placer du côté de la victime, peut-être sur un point de vue un petit peu moins juridique, parce que j'entends très régulièrement dans ce genre de situation, et malheureusement, on a eu l'occasion d'en voir beaucoup ces derniers temps, notamment un qui m'a touché vraiment, vraiment, et qui s'est déroulé dans le Val d'Oise au mois de décembre, à Daumont, plus exactement. J'entends systématiquement dire quand on en débat, oui, mais toutes ces femmes, pourquoi elles partent pas? Pourquoi elles restent là où elles sont? Pourquoi elles ne réagissent pas? Et évidemment, c'est la culpabilisation systématique de la victime, parce que c'est tellement plus simple. Et puis surtout, c'est le témoin d'une méconnaissance profonde de ce qu'est être sous emprise dans une situation de couple où la violence est exercée. L'emprise, elle est absolument phénoménale, elle est extrêmement difficile à décrypter pour les observateurs extérieurs de ce type de situation. La meilleure preuve s'agissant du féminicide de Mérignac, c'est que beaucoup des voisins qui ont été interrogés, pas forcément par les services de police, mais surtout par les médias, ont pu dire « mais on n'avait pas forcément connaissance de l'intensité et de la gravité de ce qui se déroulait derrière la porte de cette famille ». Et surtout, pour bon nombre de femmes, c'est extrêmement difficile d'envisager, à la fois psychologiquement, mais également professionnellement et économiquement, de partir. C'est très, très, très compliqué. Et indépendamment des problématiques strictement juridiques que Aurore a bien fait de souligner, il faudrait aussi mettre en œuvre des moyens pour permettre à ces femmes, je sais qu'il y a beaucoup de, dans le tissu associatif, il y a beaucoup de monde qui s'occupe de ça, mais il en faudrait encore plus pour leur permettre de s'extirper sur le plan à la fois économique et professionnelle, d'obtenir une indépendance pour justement pouvoir encore mieux s'échapper.
Justement, Aurore Boyard, quels moyens ?
Alors, tout existe. Hein. Tous les moyens existent.
Mais ils ne sont pas utilisés.
Le problème, ce n'est pas ça, c'est que c'est le manque d'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut bien savoir que moi, le juge d'application des peines, quand je l'ai saisi de la mesure concernant mon client qui était victime, il avait 40 dossiers à traiter dans la journée. 40. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente.
J'étais donc le 41e
dossier, bien sûr. Et des dossiers dans lesquels, malheureusement, souvent, il n'a pas grand-chose. Donc, il est obligé de se débrouiller, d'appeler les uns les autres. Et moi, pour la victime, j'avais fait passer mon dossier, le dossier que j'avais remis au tribunal. Donc ça, c'est déjà une première réalité. Quand on dit, et qu'on n'arrête pas de dire depuis des années, qu'il faut doubler le nombre de magistrats, doubler le nombre de greffiers, c'est une réalité.
Et redonner la parole aux avocats aussi.
Redonner, il faut aussi faire confiance aux avocats. Et il faut aussi travailler à l'interprofessionnalisation. Parce qu'on a vu dans le drame de Mérignac, personne ne communique entre eux. Le problème, il est là. Ça suffit, et ça c'est le problème moi, que j'ai même dans le Var, je le vois, je suis très impliquée sur les victimes de violences, c'est pas pour rien que j'ai fait signer par mon barreau une charte avec la CAF, et on est en train de continuer à travailler sur ces outils-là. Il y a malheureusement des gens qui ne savent pas travailler l'interprofessionnel, que ça soit des avocats, que ça soit des magistrats, que ça soit des associations, et c'est à ça que l'on se heurte. Parce que le drame de Mérignac, si tout le monde s'était passé le mot, si tout le monde avait échangé, si tout le monde avait vraiment utilisé les outils qu'on a, il serait pas arrivé. Donc donnez-nous des moyens financiers, arrêtez de faire des enquêtes à la noix, parce qu'il va en découler quoi ? Il va en découler que oui, il y a des problèmes de communication, on le sait. Que oui, il y a des manques de moyens,
on le sait. Et puis les magistrats étant un peu corporatistes, ce ne sera jamais la faute d'un magistrat.
Mais vous savez, tous les corps sont un peu corporatistes. Même chez nous, il y a du corporatisme,
mais
il y en a un peu partout, même dans la police. Tout le monde l'est un petit peu. Mais le problème, si vous voulez, là-dedans, c'est véritablement un manque de moyens financiers. Maintenant, ça suffit, il faut vraiment qu'on ait des moyens. Et je terminerai pour dire aussi qu'on parle beaucoup de féminicide, et du coup, on en oublie les enfants. Depuis quelques temps, je n'ai jamais vu autant d'enfants traumatisés. Et ça aussi, il faut qu'on s'en occupe. C'est-à-dire que les victimes, c'est la mère ou le père. Des fois, il y a des hommes battus dans une moindre proportion. Mais aussi les enfants. Et les enfants sont les grands oubliés. Ça aussi, il va falloir un petit peu retrousser les manches et s'en occuper.
Vous êtes d'accord avec ça sur l'oubli des enfants, Caroline Grima ?
Alors, oui, bien sûr. Mais moi, je trouve que l'hyper-médiatisation des... des éléments politiques qui intéressent les citoyens dans le cadre de ce qui va se passer, parce qu'on va rentrer dans une période de campagne électorale très intense. On y est déjà. Je trouve justement que cette problématique des violences faites aux femmes et des féminicides, elle est une fois de plus reléguée au second plan. Moi, j'en entends très peu parler en ce moment, et c'est assez symptomatique. Ce drame de Mérignac, on en a finalement entendu assez peu parler. Il a été assez peu médiatisé. Alors effectivement, on parle beaucoup d'autres sujets qui préoccupent les Français et qui sont absolument fondamentaux. Moi, je pense que le prochain quinquennat va se jouer sur les problématiques sécuritaires. C'est une évidence. Mais n'oublions pas que cette problématique de féminicide fait partie de la problématique sécuritaire et qu'il faut absolument la prendre à bras-le-corps.
Mesdames, je voudrais terminer avec une note positive, si vous le permettez. La semaine dernière, c'était l'anniversaire d'une des voix de Regard de Femmes. Et hier, c'était l'anniversaire, un anniversaire important, plus je ne dirai pas l'âge, d'Aurore Boyard. Donc, on va conclure en musique. Alors, bon anniversaire à vous.
Merci.
En plus, le même âge que Véronique Lenglet, vous avez une semaine d'écart. Hein,
donc, on est jumelles.
Peut pas faire... Oui, quasi.
Quasiment.
Mais bon, pour connaître les deux, vous n'êtes pas si jumelles que ça, parce qu'il y a une blonde, une brune, à moins qu'il y en ait une qui soit teinte.
Oui, mais apparemment, on a toutes les deux du peps, je dirais.
C'est vrai.
D'énergie.
Alors, on vous souhaite évidemment un excellent anniversaire, n'est-ce pas ?
Merci.
Et mon petit doigt me dit que dans quelques instants, dans le journal des sports, un certain Gaspard de Vaubicourt vous a même mis un clin d'œil.
Je dis super.
Ça, je dis rien. Vous avez entendu, c'est la suite sur Sud Radio dans le Grand Matin Week-end, le journal des sports de Gaspard de Vaubicourt. On se retrouve dans quelques instants.